Alors oui, on entame notre deuxième moitié d'heure et ce sera une demi-heure chargée parce qu'on va parler d'intelligence artificielle, mais on a quand même des gens, évidemment, on a une sommité d'une part, éthicienne, pour nous en parler, mais on a aussi un auteur dramaturge. Alors je vous les présente, Emmanuel Marceau, bonjour.
Bonjour.
Alors oui, spécialiste, bien sûr, en éthique, bioéthique aussi, chercheuse, professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, vous êtes enseignante aussi de philosophie et chercheur au Cégep du Vieux-Montréal, ainsi que chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Alors, évidemment, ça fait de vous une sommité. Mais, alors, puis vous donnez des conférences un peu partout dans le monde. Alors, c'est vraiment, vous êtes, puis c'est votre, l'intelligence artificielle, vous vous y intéressez de plus en plus, d'ailleurs, je pense. Et puis, il y a avec moi aussi, avec nous, Nathalie, qui est en studio également. Alors, on a, bien sûr, on a Jean-Philippe Barry-Guerrard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, auteur, dramaturge, comédien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Là. Vous avez des... on vous entend beaucoup dans les médias.
Oui,
metteur en scène.
Metteur en scène. Oui, ça fait beaucoup de chapeaux, là.
Beaucoup de chapeaux aussi.
Des voix aussi.
Et surtout, vous êtes un passionné d'intelligence artificielle.
Ouais, c'est quelque chose qui une chose à laquelle je me suis intéressé d'abord dans la fiction, puis finalement, évidemment pour écrire de la fiction, je me documente, je creuse là-dessus, donc j'ai fini par creuser le sillon, puis c'est un sujet qui est vraiment intéressant, puis qui a beaucoup évolué depuis le moment où j'ai écrit là-dessus pour la première fois en 2018, là, ouais.
Ouais. Et puis, Emmanuel, c'est ça, on vous a mis finalement en lien parce que vous êtes des spécialistes, bien sûr, pour en parler très bien. Alors, de sorte que nous, Nathalie et moi, nous allons aller prendre un café. On vous laisse parler ensemble.
Mais en fait, ce qui nous intriguait au départ, c'est que récemment, dans les journaux, on a vu plusieurs articles. L'intelligence artificielle s'invite chez les romanciers, chez les auteurs, dans la musique, la publicité,
partout.
Puis là, on s'est dit, il faut en parler, puis il faut vulgariser ça.
Ouais. Alors... Et dans un premier temps, c'est ça, avec Emmanuel, on va d'abord, puisqu'on parle d'éthique, là, on va commencer par définir c'est quoi l'éthique. J'aimerais qu'on ait un aperçu plus précis de l'éthique.
Ouais, c'est une très bonne question, Mme Lapoix. En fait, souvent, il y a de la confusion sur ce que c'est que l'éthique. Et on va associer l'éthique à la déontologie, voire même à la morale. Puis on va utiliser ces termes-là comme des synonymes. Dans la perspective où je travaille en éthique, c'est plutôt l'inverse. On va dissocier l'éthique de la morale et de la déontologie. Lorsqu'on fait de l'éthique, on va essayer de se questionner plus globalement sur c'est quoi la meilleure chose à faire dans les circonstances? Mm-hmm. Pas qu'est-ce que je dois faire, qui est plus de la déontologie ou de la morale, hein, à la limite avec une conception du bien ou de la règle qui nous est donnée puis qu'on applique. En éthique, en fait, on peut même questionner la règle. Est-ce que c'est toujours une bonne règle? Pourquoi? Est-ce que c'est celle qui fait sens? Quelles sont les valeurs qui sont en cause? Qu'est-ce qui vient peut-être porter atteinte à notre dignité et qu'on est en train de réfléchir au plan éthique et pour lesquels on veut finalement mener des questionnements peut-être plus approfondis? Ouais. Donc, l'éthique, souvent, j'aime bien présenter, c'est un art du questionnement.
C'est ça. Donc, alors, c'est vraiment toute la réflexion, par exemple... La valeur la plus importante dans telle situation, la meilleure décision dans telle circonstance. C'est un peu ça, finalement.
Alors, oui,
ça
absolument.
Veut dire que... D'ailleurs, je veux dire, vous êtes quand même quelqu'un qui aussi travaillait avec des juges parce que vous apportez aussi toute la dimension éthique. Eux, on va prendre des décisions, mais évidemment, il y a aussi tout l'aspect éthique à considérer là-dedans.
Absolument. Je mène un autre projet de recherche qui porte sur la magistrature et l'éthique, finalement, dans l'acte de juger. Ça fait déjà un an et demi que j'ai des collaborations avec différents juges au Québec, en France. J'ai une équipe qui m'appuie avec un co-chercheur, André Lacroix. Et on est appelé, justement, à définir cet espace éthique dans le droit, au sein même du droit. Alors, on est en train de rédiger des articles scientifiques, c'est ce qu'on fait les chercheurs, mais également un livre qui est un peu plus grand public et qui va permettre de réfléchir sur ces questions-là du rapport entre l'éthique et le droit.
Ouais. Et puis, en fait, vous êtes aussi chercheur au Centre de recherche en droit public dans l'axe gouvernance et éthique à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Alors là, ça touche directement à notre sujet.
Absolument. Donc, tout à fait, depuis quelques années, je suis chercheur, j'assiste à différentes présentations et j'ai obtenu, en fait, mon équipe et moi avons obtenu il y a quelques mois la confirmation d'un financement pour un projet de recherche qui va particulièrement, je pense, intéresser M. Baril Guirard.
Oui.
Oui, qui s'intitule « L'immortalité artificielle, perspective éthique, juridique et artistique ».
Wow! Ah, oui.
Ben, alors, il faut mentionner pourquoi, Jean-Philippe, tu as un intérêt. Alors, pour ton roman.
Le livre, oui. Manuel de la vie sauvage.
Oui, j'ai écrit ça en 2018. Puis c'est un. En fait, moi, mes premières réflexions reliées à l'intelligence artificielle, je dis que ça a commencé en 2018. C'est pas vrai parce que quand j'avais 11 ans, j'ai lu un essai du futuriste Ray Kurzweil qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là de la place qu'éventuellement l'intelligence artificielle prendrait. Mais là, on parle de ça. Ça a été écrit en 2001. Puis même avant ça, dans les années 80, ce gars-là écrivait sur le développement de l'intelligence artificielle. Il a entre autres prédit que, d'après lui, autour de 98, un humain serait battu aux échecs par un ordinateur. C'est arrivé en 97. Mais bref, ouais. Ça a beaucoup, disons, façonné ma sensibilité pour ça. Puis moi, une des choses qui m'a beaucoup intéressé quand je me suis mis à écrire plus, c'était l'utilisation de la machine, d'intelligence artificielle pour faciliter les expériences humaines. Puis je suis tombé sur l'histoire d'une entrepreneure américaine qui s'appelle Eugenia Cuida, qui, elle, avait perdu un ami et travaillait, avait développé une technologie de chatbot, de robot conversationnel, puis avait créé un chatbot avec les restes numériques de son ami comme genre de monument funéraire interactif. Fait que moi, je suis parti de cette idée-là, puis je me suis dit, OK, si elle, c'était vraiment à usage personnel, mais si on décide d'en faire un produit de consommation, qu'on offre ça au grand public, qu'est-ce que ça donne? À l'époque où j'ai écrit le livre, c'était vraiment une œuvre de fiction. Puis c'est fou parce que là, maintenant, à tous les trois mois, j'ai quelqu'un qui m'envoie un article de journal. Puis comme, hey, t'as-tu vu ça? Microsoft travaille sur un produit semblable. Il y a telle autre compagnie. J'ai vu dans le New York Times cet hiver une start-up qui le faisait de manière, justement, pour, puisqu'on est dans le sujet plus éthique, c'est-à-dire avec le consentement des sujets, on pouvait payer puis faire un genre de, si on veut, un genre de testament numérique qui impliquait de cloner sa voix, son image et tout ça. Puis donc moi ma question c'était est-ce que en fait puisqu'on est dans un champ complètement libre et qu'on a aucun barème, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui l'est pas, est-ce qu'on peut consentir à ça avant sa mort, est-ce que c'est pas correct de le faire à quelqu'un qui n'a pas consenti. Fait que c'est des questions qui sont pas encore vraiment explorées, je trouve.
C'est pour ça que Emmanuel Marceau est là parce que ça va être son projet de recherche.
En fait, tout à fait, les questions que vous soulevez, c'est au cœur du projet de recherche. Là, c'est deux co-chercheurs qui m'appuient, Marie-Ève Lacroix et Charles-Étienne, qui sont tous les deux profs de droit à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Sherbrooke. Et en fait, dans le contexte du projet, c'est qu'on veut justement ces questions-là, tant au plan éthique que légal que vous soulevez, hein, de dire, bon, ben, est-ce qu'on peut consentir, est-ce que c'est valable, et quoi si quelqu'un s'y oppose, est-ce qu'on peut le faire sans le consentement d'une personne, jusqu'où aller dans cette réappropriation, réanimation artificielle d'une personne qui est décédée, c'est exactement le type de questions qui sont au cœur de notre démarche. À la fois de recherche, et là, je vous fais un clin d'œil, M. Baril Guirard, parce que on a aussi une dimension artistique à notre projet, c'est-à-dire qu'on veut faire une recherche-création, à savoir que les résultats de notre analyse au plan éthique et légal vont donner lieu à des œuvres artistiques d'étudiants au cégep, à l'université, pour essayer de finalement sensibiliser les gens à ces enjeux-là, donc que ça soit grand public et qu'il y ait des retombées, parce que oui, la recherche est fort intéressante et importante, mais on va se le dire, la plupart des gens ne vont pas lire les articles nécessaires. Donc, les arts vivants et toute forme artistique d'expression va beaucoup plus aller rejoindre les gens. Donc, on avait cette ouverture, cette sensibilité, ce désir d'avoir un volet artistique à notre projet de recherche.
Je trouve ça vraiment judicieux parce que la science-fiction a beaucoup historiquement nourri la recherche scientifique et a parfois aussi été une façon d'amener ça à l'œil du grand public ou de la vulgariser. Fait qu'effectivement, pour moi, c'est des vases communicants. T'sais, je m'intéresse beaucoup à la science, puis je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui, parfois, particulièrement dans le domaine de la technologie, essaient de finalement donner vie à des choses qui sont apparues d'abord en fiction. Fait que pour moi, ça me semble pas du tout farfelu comme proposition.
Ah, ben non. Alors, c'est ça. Ben, on vous a invité pour vous mettre en lien l'un avec l'autre. Mais en fait, c'est ça. J'ai voulu faire cette émission-là, puis vous réunir parce que, récemment, on a vu même des concours de beauté, les concours de Miss Intelligence Artificielle. En fait, il y a plus de limites, là. On a l'impression que c'est un peu le Far West. Et puis que c'est un concours, finalement, entre les gens qui s'intéressent au numérique, qui sont dans le domaine et qui rivalisent, finalement, d'ingéniosité pour arriver à leur fin. Mais en fait, il y a toujours des intérêts pécuniers là-dedans.
Mais c'est un des gros problèmes en ce moment, puis je dirais même le simple terme intelligence artificielle, je sais pas si Emmanuel serait d'accord avec moi, mais est parfois un terme un petit peu trop générique un gros parapluie qui intègre toutes sortes de technologies différentes puis des fois on perd un petit peu, je trouve, de nuances quand on s'arrête à ce terme-là, parce que est-ce qu'on est en train de parler d'intelligence artificielle générative, donc ChatGPT qui peut écrire par exemple, ou DALL-E qui peut dessiner, est-ce qu'on est dans des choses comme de la reconnaissance faciale, est-ce qu'on a de la modélisation?
Oui, puis à la fois, il ne faut pas tout démoniser, bien sûr, parce qu'il y a des applications au niveau de l'intelligence artificielle qui sont formidables.
Ah, absolument. Cela dit, il y a eu, en tout cas, dans les dernières années, à cause de tout l'intérêt qui a été suscité principalement avec les IA génératives, avec ChatGPT, par exemple, une bulle économique assez grosse, avec beaucoup de compagnies qui ont essayé de tabler sur le simple succès de ce buzzword-là, intelligence artificielle, et là, sort des produits, puis dès que... C'est comme si on met l'étiquette IA dessus, et là, d'un coup, ça devient génial et ça devient révolutionnaire. Tu sais, juste dans les derniers mois, on a eu des flops commerciaux avec une machine qui s'appelait Rabbit, qui prétendait changer le monde, alors que c'était comme, finalement, un genre de téléphone un peu tronqué, marchait pas très, très bien. Humane aussi, une compagnie qui promettait une sorte de décusson connecté qui était branché à ChatGPT. Encore là, ça n'a pas du tout pogné et il y a eu énormément d'argent qui a été brûlé, beaucoup de valeur, de spéculation là-dessus. Donc, je pense que des fois, il faut un peu se méfier du trop d'engouement. Après ça, cela dit, il y a du positif là-dedans. Je suis certain qu'Emmanuel pourrait nous le dire. Le fait qu'il y ait de l'intérêt, ça veut aussi dire qu'il y a de l'argent public et des gens qui sont intéressés à ce que ces affaires-là se développent intelligemment.
Ouais. Alors, Emmanuel, oui. Non, allez-y.
Ben, je voulais juste renchérir et dire qu'effectivement, il y a des enjeux commerciaux qui sont de taille. Et bon, évidemment, les GAFAM de ce monde sont bien engagés et investis depuis des années pour le développement de l'IA, le déploiement. Et ça va très rapidement. Vous avez sans doute vu, il y a un an et demi environ, il y avait une lettre ouverte demandant un moratoire de grands noms, un mouvement un peu international pour dire ça va vite et on réfléchit peu finalement aux conséquences de ce qu'on crée. Vous soulignez là l'exemple des concours de beauté, avec des Miss IA. Donc, il y a tout le phénomène de Girlfriend AI aussi, qui est plus simplement du domaine de la pornographie, mais aussi de l'affect, de l'affectif, donc d'avoir une relation un petit peu comme dans le film Her, que je pense qu'il nous a tous un peu interpellés et marqués là, à une certaine époque. Mais voilà, la science-fiction rejoint la réalité, ça va très, très vite. Je rédigeais mon projet de recherche à l'automne dernier et à notre connaissance, il n'y avait pas encore de commercialisation, mais on déposait le projet et là, oups, on a trouvé sur Facebook en Chine, ça y est, il y a une compagnie qui fait ça maintenant, désormais, qui propose des avatars posthumes à des familles endeuillées. Et d'ailleurs, dans le projet, il y a toute une dimension aussi qui est intéressante à réfléchir au plan psychologique. Hein, qu'est-ce que ça signifie sur notre rapport à l'autre, notre rapport au deuil, notre rapport au réel, d'être finalement dans une genre de bulle avec des avatars finalement qui n'existent pas. Et toute la vulnérabilité aussi à laquelle on s'expose, dont on est souvent moins conscient, hein, a priori.
Ouais, mais
Nathalie, non, mais moi, j'allais dire, justement, moi, Jean-Philippe, il sait, j'ai perdu mon conjoint. Je rêverais d'avoir un avatar pour pouvoir parler à mon conjoint, mais en même temps, ça crée une dépendance, je trouve. C'est un être qui n'existe pas.
Ben, c'est ça. Elle vient de parler, justement, Emmanuel, ben, vous venez d'en parler, le rapport au réel.
Exactement.
À partir du moment où on crée des gens qui n'existent pas, qu'on voit des photos avec des gens qui ont jamais existé, qu'on s'invente une planète, en quelque sorte, on peut très bien... à un moment donné, on aura des photos de notre planète avec des photos qui... des paysages qui n'existent pas du tout. Mm. Alors, vraiment, ça questionne notre rapport au réel.
Oui, exactement.
Absolument. Il y a des questions philosophiques, ontologiques de fond avec ces nouvelles technologies. J'aimerais aussi souligner un point. Il y a comme une espèce de croyance ou de propension. Quand c'est nouveau, la technologie, c'est nécessairement bon. Mais ceci est faux. Dans le sens que oui, la technologie, et grâce à la science, la technologie, on a beaucoup amélioré notre qualité de vie, mais il y a eu aussi des dérives. Et je pense que dans le cas des intelligences artificielle pour prendre en compte ces diverses ramifications qu'on peut avoir de l'IA, que ce soit par l'IA générative, des avatars, etc. Effectivement, je pense qu'il faut que ça nous alerte aussi au plan des risques, au plan des conséquences individuelles, mais aussi de société.
Jean-Philippe, toi qui es auteur, comédien, on a parlé beaucoup de doublage, l'intelligence artificielle avec les voix et tout ça. Est-ce que toi, ça te t'as peur de ça? Est-ce que tu crains l'arrivée de l'intelligence, en fait, cette arrivée-là?
Moi, c'est drôle parce que je pense pas que mon opinion est représentative de la plupart des gens qui font ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire créer et ou interpréter. Mais c'est pas une chose qui m'inquiète parce que je trouve qu'on est déjà trop loin dans le processus pour pouvoir revenir derrière. Moi, j'ai accepté le fait que à moyen terme, des acteurs, par exemple, moi, je le fais beaucoup, je fais de la voix, publicité, des choses comme ça, du doublage, des narrations. Je sais que c'est un métier qui va être voué à disparaître, ou en tout cas, définitivement, qu'il va y avoir une contraction dans ce marché-là à moyen terme, parce que, soyons réalistes, tout le monde veut consommer de manière éthique, mais c'est une affaire qui coûte très, très cher, consommer de manière éthique. Et si on a l'occasion d'avoir, par exemple, une voix de pub qui a été faite par IA, que tu as juste payé une licence pour le logiciel versus engager un comédien qui va te coûter quelques milliers de dollars pour une session, c'est sûr que les gens vont économiser là-dessus. Donc, moi, disons que, tu sais, j'essaie de me poser la question moi-même, est-ce que je m'ennuie des forgerons? Pas vraiment. C'est un deuil qu'on va devoir faire, puis il y a des gens qui vont souffrir par rapport à ça. Mais moi, mes questionnements puis mes inquiétudes sont plus au niveau collectif. On parlait tantôt d'un monde peuplé uniquement d'avatars et de monde qui ne sont pas réels. C'est une affaire à certains égards qui existe déjà. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de réseaux sociaux qui ont souffert dans la dernière année de la prolifération de bots qui créent du contenu de très, très mauvaise qualité, mais énormément d'utilisateurs mord à l'hameçon. Fait que là, il y a eu toute une série de photos qui étaient publiées par des comptes assez nuls sur Facebook cet hiver, par exemple. C'était beaucoup relevé, entre autres, par 404 Media, médias technologiques. Des petits-enfants dans un village africain qui font une sculpture en bouteille de plastique. Puis, s'il vous plaît, partagez cette photo. Personne n'aime jamais ce genre de choses. Ou un ancien combattant sévèrement blessé.
Ce sont des contenus qui n'existent pas.
Qui sont créés par IA. Pourquoi? Après ça, rediriger vers une page où il y aura un élément de publicité, puis une personne pourra faire de l'argent avec ça. Sauf que là, les gens sont en train d'interagir avec du contenu qu'ils croient être créé par des humains, mais qui ne sont uniquement que des fermes à bottes pour ramasser de l'argent à quelques personnes.
Et Emmanuel, en fait, on parle beaucoup de transparence en amont. C'est-à-dire que, bien sûr, que souvent, là, on parle d'éditeurs qui... on va accepter de plus en plus là, que l'intelligence artificielle fasse partie du processus de création. Ça commence à être accepté. Des fois, on voit... justement, qu'on dit, tel livre a été assisté à 5% par l'intelligence artificielle. Mais c'est ça, tout est dans la question de transparence et c'est là le problème. Là. Il n'y en a pas actuellement.
Bien, en fait, je ne sais pas si c'est si accepté que ça, mais assurément, il y a des réflexions, des discussions, tant dans le domaine, vous le soulevez, là, pour éditer des livres, mais aussi, je vous dirais, dans la recherche, mais également dans les universités, les cégeps. Il y a beaucoup de questions qui se posent à l'heure actuelle, mais il n'y a pas tant de consensus Mm-hmm. Ah, un savoir, je vous donne juste deux exemples. Je suis rattachée à ces deux universités, donc je peux voir et comparer l'évolution. L'Université de Montréal envoyait un mémo l'été dernier en disant que les chargés de cours, les professeurs devaient préciser dans le plan de cours s'il y a ou était permise ou non et dans quelle mesure elle l'est, si elle l'est dans les travaux. Et bien sûr, les étudiants doivent citer s'ils ont utilisé l'IA pour faire une partie de leur travail ou s'inspirer d'idées de l'IA. Et s'il n'y a pas de mention dans le plan de cours, ben c'est réputé être interdit. Mm-hmm. L'Université de Sherbrooke a une approche différente que l'Université de Montréal. Même principe, bon, les profs doivent faire les mentions dans le plan de cours, sauf que s'il n'y a rien, là, il y a une présomption que c'est permis d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc là, je vous donne juste deux petits exemples, c'est anecdotique, mais ça permet de voir qu'on n'est pas au même endroit dans nos différents établissements. Puis je peux me permettre aussi de citer au Cégep du Vieux-Montréal, j'ai participé à des travaux assez importants sur quelques années pour développer une charte sur l'IA responsable, puis c'est inspiré grandement de la Déclaration de Montréal, qui est un document qui a été co-construit à partir des années 2015-2016, qui a abouti en 2018, avec des principes, des valeurs pour finalement le développement d'une IA responsable. Et évidemment, il y a le principe de transparence. Et au cégep, on s'est dit, ben à la fois, oui, les étudiants, mais on va faire la même chose, nous, les professeurs ou les différents départements, par exemple, des services aux étudiants, qu'on pourrait donner par un chatbot ou autre. Hein, donc, on veut que ça soit clair, on veut que ça soit explicite et surtout, on veut, dans la mesure où c'est possible, permettre un consentement libre et éclairé des personnes d'interagir ou non avec une IA. Parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux éthiques et de risques, je reviens là-dessus, qui peuvent se poser dans l'interaction avec une IA.
C'est intéressant, ça, ce que Emmanuel soulève sur le genre de certification ou de transparence sur l'utilisation de l'IA. Moi, dans les recherches que j'ai faites dans les derniers mois, ce qui ressortait beaucoup en parlant avec différentes associations qui représentent des corps de métiers artistiques, là, par exemple, je parle avec la Guilde des musiciens, Lyon des artistes, la position, juste en un an, a énormément changé par rapport à l'IA. On est passé d'une interdiction totale à, bon, une ouverture, mais voir comment peut-être il y aura quelque chose à aller chercher pour les artistes là-dedans. Mais une chose qui revient, puis ça, c'est vrai pour tous les corps de métier, c'est de la transparence sur l'utilisation. Mmh, est-ce que dans cette œuvre ou cette pub ou cette communication, il y a de l'IA générative qui a été utilisée? Et est-ce que des modèles ont été entraînés sur X ou Y artistes? Donc, qu'on sache si notre matériel a été utilisé. Je dirais que ça, peut-être qu'à moyen terme, ça n'aura pas vraiment de valeur parce qu'on peut se douter qu'à peu près tout ce qui a été produit par l'humain a été maintenant utilisé dans des modèles d'entraînement. Mais ça repose beaucoup sur cette confiance-là. Puis l'exemple du chatbot, du robot conversationnel, c'en est un bon parce que actuellement, si on va sur le site d'une compagnie de téléphone ou n'importe quelle compagnie puis qu'on veut parler avec le service à la clientèle, on ne le sait pas. On peut présumer que la plupart du temps, ça risque d'être un robot conversationnel, mais on ne le sait pas. Puis ça serait le fun comme consommateur qu'on puisse savoir est-ce qu'on parle à un humain ou à une vraie personne.
Oui, c'est vrai.
Exactement. Mais là, évidemment, il faut encadrer tout ça, mais c'est que la technologie va tellement vite que les décideurs, les législateurs, finalement, peinent à encadrer ça. Là, c'est le problème présentement.
Ben en fait, les processus en place dans nos démocraties pour adopter des lois sont habituellement, on peut dire, assez lents, surtout si on compare au développement là, technique là, qui en termes de jours, il se passe des nouvelles choses en IA. Et bon, alors c'est sûr que ce sont de longs processus. Ça a été d'ailleurs aussi ça décrié au Canada, Joshua Benzio, que vous avez sûrement entendu parler, là, qui est une sommité en termes d'intelligence artificielle de par le monde, qui est un des trois chercheurs les plus cités dans toutes les disciplines confondues, mis beaucoup de pression. En fait, souvent, des sorties dans les médias pour demander finalement au gouvernement de Trudeau d'aller plus vite sur l'adoption là, de son projet de loi. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours pas adopté. L'Union européenne vient d'adopter une loi, un règlement. Donc là, ça bouge plus de ce côté-là. Donc nous, de notre côté, ben il y a quand même si je peux dire, là, des repères légaux qui existent. D'ailleurs, ma collègue Marie-Ève Lacroix et avec un autre collègue, Nicolas Vermès, ils ont publié un livre qui s'appelle « Responsabilité IA » il y a quelques mois. Et l'idée, c'est de faire un peu le bilan de la responsabilité civile, qui est la responsabilité, je vais faire ça simple, entre les personnes quand il y a un dommage, ou une entreprise et des personnes, et de s'interroger du point de vue de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui existe présentement dans le droit, puis qu'est-ce qui pourrait être utilisé. Donc, il y a quand même des travaux qui font. Il y a quand même un cadre juridique existant, mais bien sûr, certains disent que ça doit aller plus loin, être plus précis et surtout éviter certaines catastrophes qui pourraient finalement faire en sorte qu'il y aurait un point de non-retour. Je suis un peu d'accord, on l'a déjà passé, le point de non-retour, c'est-à-dire que ces technologies sont déjà dans nos vies, mais je pense qu'il y a quand même toute une marge de manœuvre de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on ne permet pas, et comment aussi au niveau de la conception de l'IA, donc ceux qui conçoivent le code, les systèmes d'intelligence artificielle, comment là aussi il doit avoir une meilleure prise en compte des dimensions éthiques et légales dans la conception même et de la transparence, un principe de transparence pour qu'on sache finalement comment ces IA ont été entraînées, sur quelles données, est-ce que les gens ont consenti à l'usage de leurs données pour entraîner des IA. Bref, il y a toutes sortes de questions qui se posent.
Oui. Et donc, c'est évidemment, est-ce que le problème peut se résoudre aussi au niveau international, que les pays s'entendent? Est-ce que, bon, je sais que l'UNESCO fait beaucoup dans ce sens-là aussi.
On peut le souhaiter.
Parce que vous allez vous régulièrement donner des conférences à l'étranger, donc vous en parlez, j'imagine, avec vos pairs, avec vos collègues.
Bien, c'est sûr que tout ce qui est dimension justement des droits de l'homme internationaux, tu sais, d'essayer d'avoir des bases communes pour penser une meilleure humanité. Si on regarde rétrospectivement, il y a des pas qui sont faits, mais c'est toujours fragile et c'est toujours difficile. Et le problème, quand on est dans un contexte de mondialisation, c'est que, bon, ben, si c'est un pays se dote d'une loi qui est trop sévère, ben, on va aller dans un autre pays. Et là, ça se fait pour plein d'autres secteurs, là, de manufacturiers ou autres, mais on peut penser que l'IA ne fera pas exception à cette, hein, l'industrie de l'IA, à ce type de magasinage-là, puis qui font en sorte que ben, ça peut passer dans les filets. Donc, c'est pas tout de penser des bonnes lois de conception, d'usage, mais aussi il faut voir à développer une conscience internationale. Et là, ben, c'est pas gagné parce qu'effectivement, c'est toujours complexe quand on est dans des relations internationales avec toutes sortes d'intérêts, de visions, de cultures, d'agenda, de politiques différentes.
Bon, le mot de la fin avec Jean-Philippe.
Moi, je dirais, je pense qu'il ne faut pas... oui, c'est important de ne pas embrasser ça et dire que toute nouvelle technologie est nécessairement salvatrice et la meilleure chose au monde. Mais je pense que la meilleure façon de ne pas en avoir trop peur, c'est de jouer avec. Les outils qui sont disponibles actuellement, là, par exemple d'IA générative, jouez avec. Comprenez-le. Comme ça, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, vous ne tomberez pas des nues quand quelqu'un propose une nouvelle façon de travailler. Je pense que de garder ça à des mètres de distance de soi, ce n'est pas plus simple.
Ce n'est pas la solution.
Donc, les gens qui nous écoutent, utilisez ChatGPT, servez-vous-en, utilisez-les pour...
Intelligemment, évidemment. N'utilisez pas les informations que ChatGPT vous donne comme profession de foi, évidemment. Non. Mais développer une aisance avec ça, je pense que c'est déjà une bonne façon de ne pas en avoir peur.
S'informer et lire à ce sujet.
Bien sûr.
Et puis, on suit vos recherches, Emmanuel. Alors, on espère que ces recherches seront sans doute partagées éventuellement. Et puis, c'est
absolument.
Ça.
Absolument. Puis si je peux juste me permettre une petite parenthèse, l'IA aussi peut faire des grandes avancées pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc, tout le volet EDI, il y a vraiment des choses qui peuvent être très porteuses, tant au plan de l'éducation, de l'emploi. Donc, il y a aussi beaucoup de bons qu'il faut souligner.
Merci beaucoup, Emmanuel. Ça a été fort intéressant.
Non.
Rapidement.
Moi, je veux juste dire, achetons un roman aujourd'hui. Oui. Jean-Philippe, ici présent, qui en a pondu plusieurs.
J'en ai quatre.
T'en as quatre. Achetons un roman.
Nous sommes le 12 août, alors, et on encourage aussi les librairies indépendantes.
Oui.
Merci, Emmanuel Marceau. Merci, Jean-Philippe Barry-Guerrard, d'avoir été là. Ça a été une demi-heure fantastique.
Un plaisir.